Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et aussi Nicolas Sendé, mais également Mélanie Chalandon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jérémy Kaufmann. Dernier temps de notre série consacrée aux polices à travers le monde. Après avoir évoqué lundi les modèles allemands et britanniques, mardi les projets de réforme de la police du côté des États-Unis, et puis hier les forces de l'ordre devenues criminelles au Nigeria ou encore aux Philippines, tournons-nous aujourd'hui vers un pays où l'appareil sécuritaire est pour beaucoup dans le maintien du régime, l'Algérie.
Pendant les marches, les autorités sont devenues plus sévères. Il y a des policiers en civil. Ils t'attrapent, ils prennent ton nom et ton prénom pour te ficher. Parfois, ils nous courent après et nous donnent des coups de matraque.
Pourquoi ils nous arrêtent ?
Nous, les détenus du Hirak, on n'a rien fait. Pour moi, c'est atteinte aux intérêts du pays. D'autres, c'est incitation au rassemblement non armé. Ce ne sont que des faux délits. Ils sont capables de te coller n'importe quoi. Ils nous utilisent comme des otages. Moi, ce que j'exprime, ce sont les souhaits du peuple. Je n'ai rien inventé. C'est pour ça que les gens m'aiment. Il n'y a que la police qui me frappe.
Voilà, extrait du reportage Algérie, un an après la grande désillusion qui avait été diffusée au mois de février dernier sur Arte. Depuis plusieurs mois, les militants du Hirak font l'objet d'une répression accrue en Algérie. Les différents services de sécurité multiplient les arrestations arbitraires à l'encontre des manifestants, tout en investissant les réseaux sociaux pour tenter de décrédibiliser le mouvement. Pourtant, lorsque celui-ci avait démarré en février 2019, il avait été dans un premier temps encadré dans un relatif respect de l'état de droit, parvenant même à obtenir deux mois plus tard le départ du président Abdelaziz Bouteflika, 20 ans après 20 ans de règne, remplacé depuis par Abdelmadjid Tebboune, élu le 12 décembre 2019 lors d'un scrutin où les participants avaient été triés sur le volet. Mais le nouveau pouvoir a rapidement ciblé les meneurs d'une contestation qui ne voulait pas se contenter de cette victoire symbolique. Dans le même temps, plusieurs anciens caciques du régime et des services de sécurité ont disparu de la scène politique. Le chef d'état-major, Gaïd Salah, décédé quelques jours après l'élection du président Tebboune, ou encore Mohamed Medienne, alias Toufik, ancien patron des renseignements, longtemps considéré par certains observateurs en tout cas comme l'homme le plus puissant du pays, condamné à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Blida en septembre dernier. Alors le durcissement de la répression contre le Hirak traduit-il la persistance d'un état policier en Algérie, en dépit du départ de Bouteflika, de la dissolution du DRS, le département du renseignement et de la sécurité quelques années plus tôt? Dans quelle mesure les procès intentés à d'anciens hommes forts de ce DRS, et en particulier à Mohamed Medienne, Toufik, relèvent-ils du règlement de compte, et comment les manifestants algériens perçoivent-ils ces purges? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Hasni Abidi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève, le CERMAM, enseignant à l'université de Genève. Vous aviez notamment écrit « Moyen-Orient, le temps des incertitudes » et puis plus ancien « Algérie, comment sortir de la crise ». C'était en 2003 chez l'Harmattan. Mais depuis, au fond, beaucoup de choses sont encore là. Kader Abderrahim est avec nous également ce matin. Bonjour Kader.
Bonjour, merci, Florian Delorme.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe et vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez signé il y a quelque temps Géopolitique de l'Algérie aux éditions Bibliomonde. Alors, on vient d'apprendre là sur nos smartphones les uns et les autres que le président Macron serait touché par le Covid. J'utilise le conditionnel parce que il faut encore que cette information soit confirmée, mais il se trouve que du côté de l'Algérie, ça fait longtemps que le président est touché par le Covid, il est même allé se faire soigner à l'étranger, en l'occurrence en Allemagne où il est hospitalisé. Il y a eu une récente vidéo publiée sur son compte Twitter, Kader Abderrahim, dans laquelle il expliquait qu'il avait encore besoin de 2-3 semaines pour être remis sur pied, pour rentrer au pays. C'était quand même sa première apparition publique depuis le 15 octobre. Est-ce que les Algériens se retrouvent dans une forme de vacances du pouvoir? Et évidemment, on pense à l'époque de Bouteflika, où de toute façon, ce n'est pas Tebboune qui conduit les affaires du pays, et son éloignement n'a aucune incidence, Kader Abderrahim.
Oui, bis repetita, malheureusement pour l'Algérie, qui semble être à la fois dans l'impasse politique et en même temps à la dérive sur le plan institutionnel. Mais en même temps, je crois qu'il est important de souligner qu'il y a bien longtemps, et là aussi peut-être j'ajouterai l'adjectif malheureusement, que les Algériens se sont détournés de leurs dirigeants politiques parce qu'ils ne croient plus en leur capacité à redresser le pays et ils ne voient aucun projet se dessiner pour l'avenir.
Hasni Abidi... En Algérie, il est évidemment très difficile de savoir ce qu'il y a derrière ce que les Algériens appellent le système, qui est un mélange de dirigeants politiques, de militaires, de responsables de la police, d'hommes d'affaires. On va essayer justement d'y voir plus clair au cours de cette émission, Hasni Abidi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque de Bouteflika, l'appareil sécuritaire avait un poids politique considérable. On va bien sûr détailler les choses, mais dans quelle mesure vous diriez que le départ de Bouteflika, l'arrivée de Tebboune s'est accompagnée quand même d'un recul de cette influence de l'appareil sécuritaire et peut-être d'un renforcement de dirigeants politiques classiques, traditionnels, enfin ceux qui ont été élus par le peuple, même si évidemment on pourrait revenir sur la transparence des précédentes élections. Mais enfin, Hasni Abidi.
La question de la relation entre le pouvoir présidentiel et les services de renseignement, mais aussi l'état-major, est une question sur laquelle repose la stabilité de ce régime. Il se trouve que le troisième mandat et le quatrième mandat du président Bouteflika a été contesté par certains hauts dignitaires de l'armée, mais pas l'ancien chef de renseignement, le général Médienne. Et évidemment, le président algérien craignait, d'ailleurs c'était son slogan dès sa première investiture, il ne voulait pas être un quart de président. Il savait, il était conscient, rusé comme il était, que le fameux DRS, le département de renseignement et de sécurité, était le véritable faiseur de roi, le seul département qui s'occupe de la sécurité intérieure et extérieure, mais surtout qui fait office de ce qu'on appelle la police politique. Il fallait absolument le réduire. Et il a entamé très tôt une sorte de fuyage un peu de ce département avec le soutien de son chef d'état-major préféré qui est devenu plus tard l'homme fort de l'Algérie. Donc il y avait déjà eu cette opération.
Vous parlez de Gaïd Salah.
De ce service, bien sûr de Gaïd Salah et le président Bouteflika, pour réduire l'influence de ce département de sécurité dirigé par l'ancien général Tofiq Médienne. La deuxième question qui se posait pour le pouvoir aujourd'hui, c'est justement comment diriger ou comment gérer cette situation laissée par le président Bouteflika, dans la mesure où on avait, en quelque sorte, pour résumer, un équilibre en trois pôles. Le pôle présidentiel qui est devenu le pôle plutôt de son frère et de ce que le pouvoir algérien appelle aujourd'hui la bande, donc le pôle financier qui est devenu important, l'état-major de l'armée et les services de renseignement. Et la purge opérée par le président Bouteflika au sein de DRS a quand même renforcé ce pôle présidentiel et les hommes d'affaires, ce qui a bien sûr fait peur à l'institution militaire qui a profité de ce soulèvement populaire pour se défaire du président lui-même qui est devenu une menace pour le système, comme vous l'avez cité tout à l'heure.
Alors, on reviendra évidemment sur cette séquence-là, Hasni Abidi, et la manière dont l'armée a peut-être effectivement utilisé ce Irak, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais d'abord, Kader Abderrahim, je voudrais revenir sur ce que je disais dans cette introduction, c'est-à-dire le fait que depuis quelques mois maintenant, on voit un régime algérien qui fait preuve d'une très grande fermeté à l'égard du Irak, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui arrête des manifestants, qui bâillonne ses opposants, qui empêche les journalistes de s'exprimer. On a vu aussi en la matière comment on utilisait la justice, on instrumentalisait même la justice à travers des procès expéditifs à l'issue desquels on envoie des contestataires en prison par dizaines. Et pourtant, c'est vrai que dans un premier temps, on a eu un pouvoir algérien qui s'était montré plutôt souple, un président Tebboune qui avait plutôt fait preuve d'une certaine ouverture, avant finalement de resserrer la vis. Pourquoi, selon vous, ce pouvoir a décidé d'accroître la pression sur le mouvement? Est-ce que, pour revenir à ce que disait Hasni Abidi, au fond, eh bien, le travail de purge d'une partie du système a été réalisé, et notamment sous la pression de l'armée, et il est temps désormais de revenir à une situation stable, puisque justement ce travail de purge a été fait? Comment vous interprétez les choses, Kader Abderrahim?
Je dirais que c'est la nature du régime, hein, d'un régime autoritaire que certains de mes collègues qualifient d'hybride. On pourrait en débattre, mais ce régime, foncièrement, fondamentalement, depuis l'indépendance, contrôle et veut maintenir le contrôle sur la société. Et le peu d'espace grignoté au fur et à mesure de l'histoire récente et des révoltes populaires sont aujourd'hui battus en brèche par un régime qui est, encore une fois, je le répète, isolé, dans une impasse politique parce qu'il n'a plus de projet à proposer, d'ailleurs ni pour lui-même, pour sa propre survie, ni à offrir à ses compatriotes, et que donc il ne lui reste que la carte de la répression.
Et qu'est-ce que ça, Kader Abderrahim, est-ce que ça peut aboutir à l'essoufflement total et durable du mouvement, ou finalement ce Irak, malgré la répression, malgré le confinement, la crise sanitaire, il a été trop puissant et il ne peut pas s'arrêter, il ne peut plus s'arrêter?
Je pense que je crois que le Hirak, il a commencé il y a fort longtemps. Hein, si on remonte à une période récente, octobre 88, c'est l'enclenchement d'un processus. Aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité de ce que l'on appelle les printemps arabes. C'est la même chose, c'est beaucoup trop tôt pour faire des bilans globaux ou définitifs ou même partiels, et parce que nous sommes entrés dans un processus. En son temps, à la Renaissance, Erasme avait fait l'éloge de la folie, et je crois que nous devons nous faire l'éloge de ce processus, c'est-à-dire la réappropriation de la citoyenneté par les peuples. En Algérie, le Hirak, c'est exactement ce à quoi nous assistons. Malheureusement, je trouve et je constate que de ce côté-ci du monde, en Europe, nous n'avons pas apporté à ce mouvement qui était exemplaire à la fois par les revendications, l'état de droit et la démocratie, et par l'attitude et le comportement. Il n'y a rien cassé. On n'a rien cassé. Pendant plus d'un an, il n'y avait même pas un papier gras. Donc, il y avait une grande maturité collective de la part de la population algérienne qui voulait démontrer qu'il était possible d'entrer pacifiquement dans une transition démocratique.
Kader Abderrahim, je voudrais revenir sur l'élément que avançait tout à l'heure Hasni Abidi, qu'on a perdu, on va retrouver la ligne, mais j'indique pour les auditeurs, je voudrais pas croire qu'on le laisse de côté. Pour le moment, la technique fait qu'il n'est pas avec nous. Vous l'êtes, Kader Abderrahim. Cette idée tout à l'heure avancée, selon laquelle il y aurait une instrumentalisation, une utilisation du Irak en tout cas, par l'armée et peut-être même contre justement ce DRS, ce service de renseignement algérien. C'est vrai qu'il y a eu cette thèse selon laquelle, au fond, l'armée était pas forcément derrière le soulèvement populaire, mais en tout cas qu'il y aurait une certaine bienveillance à l'égard des manifestants dans un premier temps, qu'il les aurait encouragés, au fond, à descendre dans la rue pour à la fois circonscrire le périmètre de la contestation, maintenir le statu quo, mais aussi peut-être pour couvrir d'une certaine manière sa lutte contre les services de renseignement, donc la police algérienne. Quel regard vous portez sur cette thèse, Kader Abderrahim?
Oui, j'ai entendu, comme tout le monde, ce genre de théorie qui n'est pas étayée. Mais on peut faire des rapprochements pour vouloir chercher des explications à des théories qui, pour le moment, n'ont pas de soubassement concret, précis. Ce qui s'enracine aujourd'hui en Algérie, et ça c'est un fait, c'est la contestation populaire, c'est le rejet massif d'un régime qui a conduit l'ensemble d'un pays, d'une population, dans une impasse.
Oui, il y a évidemment, bien sûr, la contestation sociale, Kader Abderrahim, mais derrière la contestation, il y a aussi, c'est vrai, un jeu politique et peut-être des rapports de force qui sont en train d'être bouleversés. Entre
évidemment,
la police, l'armée, les dirigeants élus, même si je rappelle une fois encore que, bien sûr, le président Tebboune a été élu dans un scrutin où ses opposants avaient été triés sur le volet. Il n'empêche qu'il y a, c'est vrai, ce jeu-là et des rapports de force qui bougent.
Oui, je ne conteste pas cette idée que vous avancez, mais je crois qu'il faut quand même... L'histoire, c'est le facteur structurant de la pratique politique en Algérie par les élites. Et je crois que la grande leçon que nous avons apprise de ce mouvement populaire qu'est le Hirak depuis février 2019, c'est précisément que les peuples veulent sortir de cet héritage de l'histoire et se réapproprier leurs citoyens et donc participer à la vie publique.
Sauf qu'on sait combien c'est difficile. Sauf qu'on sait combien c'est difficile et l'histoire ne cesse de le rappeler, bien sûr. Hasni Abidi, sur ce poids de l'armée que vous évoquiez tout à l'heure, je rappelais dans mon introduction que en décembre dernier, quelques jours après l'élection du nouveau président, le chef d'état-major Gaïd Salah décédait. Vous nous disiez vous-même, Hasni Abidi, combien il avait un rôle politique considérable, rôle politique d'ailleurs dans le départ aussi de Bouteflika et l'organisation de la transition qui s'en était suivie, parce que d'une certaine manière, c'est Gaïd Salah qui a joué le rôle de parrain politique de Tebboune et qui l'a propulsé au poste de président. Qu'est-ce que sa mort, Hasni Abidi, à Gaïd Salah, a changé aux équilibres politiques, Hasni Abidi?
Sa mort a été un tournant pour le système politique algérien, dans la mesure où Gaïd Salah, depuis son accession à la tête de chef de l'état-major, il a été rappelé par le président Bouteflika. Il faut rappeler que Gaïd Salah a été sur la voie de la retraite. Un deal a été fait conclu entre lui et le président Bouteflika, et c'est comme ça que Gaïd Salah, l'état-major de l'armée, a réussi à récupérer les grands pouvoirs des services de renseignement qui étaient jusque-là détenus par le DRS et par le général Médienne. Le résultat, c'est que évidemment le chef d'état-major a continué un petit peu à la fois donc cette purge. Pourquoi ? Pour avoir une certaine une nouvelle alliance, une nouvelle configuration de relations entre le pouvoir et les services de renseignement et l'armée algérienne. Aussi avoir une certaine allégeance des ce nouveau, puisqu'il a opéré des changements à partir de 2015. Les changements ont touché les régions militaires, et vous savez qu'en Algérie, le pouvoir est détenu par le DRS, les renseignements, et par les régions militaires, parce que c'est elles qui ont le canon, c'est eux qui ont la force de frappe. Et évidemment, des changements à la tête de tout ce qu'on appelle les systèmes de sécurité. En l'occurrence, la gendarmerie nationale et la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Sa mort a été aussi un tournant, parce que il fallait absolument revenir, en tout cas, à la première, ou disons qu'à la phase qui a précédé l'arrivée ou le renforcement de Gaïd Salah, parce que beaucoup de certains hauts dignitaires de l'institution militaire aussi se sont plaints auprès du nouveau homme fort, le général Chen Griha, donc qui était l'adjoint de Gaïd Salah,
qui est maintenant le nouveau chef d'état-major.
Absolument. Mmh. Et on assiste d'ailleurs à une situation inédite, c'est-à-dire les hommes forts nommés par Gaïd Salah à la tête de certains chefs de renseignement sont en détention. L'ancien chef de service intérieur, il est en prison. Ça veut dire que le retour des anciens hommes, et je dirais même le retour des anciens de général Médienne, est aujourd'hui palpable sur la scène politique algérienne.
Hasni Abidi, vous pouvez un tout petit peu nous éclairer sur ce personnage, Saïd Chen Griha, parce que il y a un ancien officier algérien exilé en France qui s'appelle Habib Souaïdia, qui avait publié un livre il y a longtemps, c'était au début des années 2000, faisant état de massacres de civils par l'armée durant la décennie noire, alors qu'il était sous le commandement de Saïd Chen Griha, précisément. C'est un ouvrage qui était intitulé « Sale guerre », qui avait été publié par La Découverte, qui lui a valu d'ailleurs d'être condamné par contumace pour démoralisation de l'armée et complot portant atteinte à l'intégrité du territoire national. Qu'est-ce qu'on sait sur Saïd Chen Griha, qui est donc ce nouveau chef d'état-major, et sur ses soupçons qui pèsent sur lui durant cette décennie noire, ces années 90 ?
Pas grand-chose, finalement. Ouais. Cet homme, le général Chen Griha est un homme de terrain, et il est le même âge que le général-major Gaïd Salah. Et il a fait, évidemment, sa grande carrière, c'est une tradition en Algérie, qui est plutôt le chef des forces terrestres. C'est lui qui a l'honneur de devenir le chef d'état-major, parce que c'est le corps le plus important dans l'institution militaire. Il a été l'homme le plus présent et l'homme fort pendant justement la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Donc c'est un militaire de carrière. Il fait partie de l'ancienne génération d'ailleurs de ces hauts gradés de l'armée. Mais encore une fois, le secret de l'armée algérienne, c'est cette opacité réelle ou entretenue par les services de renseignement. Et donc il y a très peu d'informations qui filtrent au sujet de général Chengriha.
Ouais, vous nous le dites, Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major, avait été l'un des grands artisans, en tout cas, de cette lutte contre l'influence politique de la police, et en particulier du DRS, le département du renseignement et de la sécurité. Pendant longtemps, c'est lui qui faisait un peu la pluie et le beau temps, et notamment son patron, Toufik, c'était son surnom, jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 2019. En même temps, d'ailleurs, que d'autres responsables, dont le frère de l'ancien président Saïd Bouteflika.
أكد مصدر أمني جزائري لوكالة أسوشيتد بريس اعتقال شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة والجنرالين بشير طرطاق وتوفيق المعروف بمدين وهما القائدان السابقان لجهاز الاستخبارات العسكرية المثير
للجدل. Annonce de la télévision algérienne. Toufik, de son vrai nom Mohamed Lamine Medienne, arrêté en mai 2019, condamné à 15 ans de prison en septembre dernier. Kader Abderrahim, comment vous interprétez la mise à l'écart d'un homme qui a été au cœur du système algérien pendant de si longues années? Que révèle sa condamnation et qu'est-ce qu'elle nous dit des évolutions précisément, des rapports de force dans ce système algérien dont on dit si souvent que c'est une véritable boîte noire, Kader Abderrahim?
Oui, comme le soulignait à l'instant Hassani Abidi, c'est l'opacité qui domine. Donc nous sommes tous contraints à faire des conjectures ou en tout cas à analyser à partir ou à pratiquer de l'analyse à partir des informations qui viennent jusqu'à nous. Donc cette condamnation, ces condamnations, parce qu'il n'est pas le seul, Médienne, à avoir été condamné à des peines quand même très lourdes, illustre la lutte féroce à l'intérieur du sérail qui vit dans une autarcie absolue et qui est auquel nous n'avons pas accès ni en termes d'informations. Et parfois, c'est aussi difficile de comprendre ce qui se passe. Mais là, il est clair que l'on passe d'un régime à un autre, au sens où l'incarnation du pouvoir change de main. Et pour changer de main, il faut qu'elle change d'homme.
Mais est-ce que ça change seulement de main, mise à l'écart de Toufik, c'est aussi le recul très clair de l'influence du DRS, du département du renseignement et de la sécurité, sachant que je sais bien qu'officiellement il a été dissous, mais en réalité l'appareil sécuritaire, l'appareil policier est toujours bel et bien là. Est-ce que son influence a réellement reculé dans ce système-là, ou en réalité on peut pas le dire?
En tout cas, il est apparu clairement que pendant toute la période Bouteflika, qui a quand même été assez longue, 20 ans je crois, ce qui est inédit en Algérie, il y a eu cette volonté de limiter son pouvoir et de réduire son influence. Mais aujourd'hui, force est de constater que sous d'autres formes, avec d'autres personnes, ce régime continue et cette politique continue de fonctionner, d'autant que le président Tebboune lui-même, le lendemain de son élection, donc le 13 décembre 2019, dans une conférence de presse à Alger, avait dit clairement à propos du Hirak, les négociations, oui. La discussion, oui. Les négociations, non. Donc, les termes du débat étaient quand même extrêmement limités. Et on voit aujourd'hui que malgré son absence, malgré le vide sur le plan institutionnel, les choses continuent de tourner, même s'il y a des velléités de tenter de lui chercher un successeur pour éviter justement la vacance du pouvoir qui avait été tellement reprochée à son prédécesseur Bouteflika.
Hassani Abidi, sur cette arrestation de Toufik et sur le poids politique de l'appareil sécuritaire algérien aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui considèrent qu'en réalité, ces arrestations, ces condamnations ne sont qu'une farce judiciaire. J'utilise la formule qui avait été utilisée par le politologue Mohamed Hachemaoui dans une interview dans La Croix en février dernier, et qu'en réalité, ça n'a rien changé dans l'appareil sécuritaire algérien. Vous êtes d'accord, Hassani Abidi?
Écoutez, elle est très difficile difficile de répondre à cette question, mais ce qu'on a, ce qu'on voit d'une manière objective, c'est que le départ de général Toufir n'a pas affecté le fonctionnement des services de sécurité, que ce soit interne ou externe. Et on a bien vu quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une loyauté, la loyauté de l'appareil, de l'institution, au nouveau l'homme fort, Gaid Salah, et ensuite pour Shangri-La, et aujourd'hui le président Tebboune. Ce qui montre finalement qu'on a, avec les services de renseignement, presque une institution, ou un projet d'institution. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Algérie est faible. Elle ne s'est jamais dotée d'institutions viables, ne s'est jamais dotée d'une constitution pluraliste. Il se trouve que l'institution militaire, de manière générale, et surtout son service de renseignement, c'est-à-dire le DRS, qui est en quelque sorte le successeur tardif du MALG, du ministère de liaison de l'armée, qui a été créé en 1957. Vous avez un service de renseignement qui est antérieur à l'État, à la construction de l'État lui-même. Et je dirais même que c'est le service de sécurité et l'armée qui a créé l'État algérien. Et aujourd'hui, il est très difficile de se défaire de l'omniprésence et de l'importance du service de renseignement, d'abord parce que sa création est antérieure à cet État, mais parce que c'est la seule institution qui est disciplinée par sa nature, elle est militaire, par son fonctionnement, par le secret qui est autour de son budget. Jamais on a négocié ou on a parlé de son budget au sein de l'Assemblée parlementaire. C'est pourquoi, oui, le départ de Médienne n'a pas affecté le fonctionnement, l'influence et aussi la présence très importante de ce service. Je dirais même.
Mais Asni Abidi, on va revenir sur cette histoire extrêmement intéressante que vous évoquiez et le rôle qu'ont joué effectivement tous ces militants nationalistes qui sont devenus au moment de l'indépendance des protagonistes politiques de premier plan. On va refaire cette histoire-là. Mais aujourd'hui, est-ce que par exemple, on sait dire qui en Algérie dirige le DRS ? C'est qui aujourd'hui le chef des renseignements, puisque ce n'est plus Toufik ?
On peut dire aujourd'hui que le DRS a repris son autonomie, puisque le président...
Mais qui le dirige ?
C'est un général qui est proche qui est proche de Shangri-La, qui n'est pas du tout connu du bataillon, donc il vient du ministère de la Défense, personne ne connaît vraiment son parcours, et on l'a mis à cette place. Ce qui est important, c'est qu'on n'a plus le même service, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous donne un exemple, le service, donc le service de sécurité extérieure, qui est un des départements le plus important. Ce n'est pas le plus important avec le sécurité intérieure. Il est dirigé par un général qui était déjà en poste sous le général Médienne. C'est le général Bouzid, donc un jeune de 60 ans, le meilleur connaisseur de l'armée algérienne du monde arabe, qui est mis à la retraite, qui est congédié par Gaid Salah et par le président Bouteflika, c'est lui qui signe, bien sûr. Et aujourd'hui, le général Shangri-La fait appel à lui pour reprendre son poste. Et ça, c'est un élément important. Donc, nous avons des hommes qui ont servi sous le général Toufir, qui sont aujourd'hui de retour. Et donc, et ça, c'est une idée à creuser. C'est-à-dire que l'institution, en quelque sorte, prime sur la personne.
Des gens de l'ombre qui, finalement, sont aujourd'hui essentiels dans le dispositif politique. Pour éclairer cette situation actuelle, rien de tel qu'une belle perspective historique. Vous parliez tout à l'heure du rôle, justement, de ces agents de renseignement dans la construction de l'État algérien. On va, justement, se pencher dessus. Et d'abord, je propose d'écouter une archive. L'homme que vous allez entendre, c'est Abdelhafid Boussouf, alias Simabrouk.
Le colonel Boumdine n'est pas un homme mystérieux comme le disent certains journaux. En réalité, comme il était mon adjoint et que je le connais très bien, je peux dire que Boumdine est un homme comme tous les autres. C'est un cadre moderne qui conçoit les problèmes selon des méthodes rationnelles d'analyse. Il sait quelles sont les possibilités de l'Algérie. Il sait aussi quels sont les devoirs de l'Algérie vis-à-vis de l'opinion publique algérienne ou internationale. On est donc loin de l'homme qui veut tourner le dos à toutes les réalités. Il n'est ni à gauche ni à droite, il est là où se trouvera l'intérêt de l'Algérie.
Voilà, cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Abdelhafid Boussouf, alias Simabrouk. C'est une voix qu'on a rarement entendue. C'est un document de 1965, un militant nationaliste algérien dont le rôle a été essentiel dans la naissance des services de renseignement algériens et dont l'adjoint n'était autre que Houari Boumediene, qui deviendra évidemment chef de l'État algérien en 65 après avoir renversé Ben Bella. On voit tout de suite, Kader Abderrahim, une chose apparaître, c'est le rôle de ces services de renseignement dont les racines plongent dans la guerre d'indépendance, dans la construction de l'État algérien. Tout à l'heure, Hassani Abidi le rappelait, c'est en 1957 qu'est créé officiellement le ministère des liaisons générales et des communications, en même temps que le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est une institution qui deviendra ensuite le ministère de l'armement et des liaisons générales. Et on va retrouver tout ce petit groupe comme Boussouf, comme Boumediene, à la sortie de la guerre, au moment de l'indépendance. Mais comment se fait-il précisément, Kader Abderrahim, qu'au fond, le pouvoir politique n'est pas su, pu s'émanciper de ce monde-là des services de renseignement pour construire au fond un État algérien qui ne serait pas que ces services de renseignement finalement. Kader Abderrahim.
Ah, c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Je risque une hypothèse. Je crois que dans le fond, compte tenu de la structure tribale et régionaliste qui s'est toujours articulée autour d'un autoritarisme militaire, je crois que ceux qui ont mis en place, qui ont jeté les fondations de ce que l'on appelle l'Algérie indépendante, ont voulu bâtir un système moins qu'un État. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez singulier dans le monde arabe. Certes, l'Algérie a toujours donné à l'extérieur l'image d'un pays et d'un État fort et puissant, mais en même temps, il a toujours refusé les attributs de cette puissance. Donc, l'État, aujourd'hui, on le voit, est en déliquescence. Il est extrêmement fragilisé, précisément par ceux-là même qui prétendent l'avoir bâti depuis la guerre de libération en 1954 qui prendra fin en 1962. Et donc il me semble que la question elle est toujours pertinente aujourd'hui encore. Est-on dans un véritable État avec tous les attributs de ce que l'on connaît de l'État? Ou bien sommes-nous simplement dans ce qui est une forme d'autarcie et de système, de régime politique qui fonctionne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la préoccupation la plus importante est la question de la pérennité du régime. Et je crois que c'est si on prend et si on tente de comprendre la situation en Algérie, il faut la lire à travers ce prisme pour ne pas se tromper d'analyse.
Hassani Abidi, quel regard vous portez sur cette hypothèse de Kader Abderrahim? Est-ce que effectivement vous pensez que au fond on a voulu créer un système et pas un État? Est-ce que tous les présidents de l'Algérie finalement ont eu ce travers-là depuis Ahmed Ben Bella jusqu'à Boumediene, jusqu'à Chadli Ben Jedid et jusqu'à aujourd'hui? Finalement tous ont voulu garantir la continuation d'un système plutôt que la construction d'un État.
La déclaration de novembre, celle qui a donc donné naissance et aussi constitué le référent conceptuel de la révolution 1954, parle de la fondation d'un État algérien, ne parle pas d'un système. Mais il se trouve bien entendu que l'après indépendance, il y avait des divergences importantes entre ce qu'on appelle l'armée des frontières dirigée par Boumediene et l'aile civile. Et souvenez-vous bien sûr les assassinats qui ont quand même entaché cette Algérie jeune et indépendante. Et ces divergences, en quelque sorte, parce qu'elles étaient reportées, ceux qui ont proclamé la révolution de 1954 étaient conscients de ces divergences, mais ils ont préféré plutôt de s'unir contre le colonialisme, contre l'occupation, et reporter la question de la nature de l'État algérien après l'indépendance, hormis quelques réflexions d'ordre général. C'est évidemment au lendemain de l'indépendance que la question, quel projet national, quelle société, là, ils ont fait surface. Et évidemment, l'institution militaire ou l'armée des frontières a eu comme le dernier mot, souvenez-vous, le GPRA, le gouvernement provisoire de M. Ben Kadda. M. Ben Bella a été déposé en 1900, président civil a été déposé en 1900. 1965. Et depuis, évidemment, l'Algérie a vécu plusieurs années avec le colonel Boumediene. Ensuite, toujours, ce sont des militaires qui ont pris le dessus, sauf la parenthèse de Mohamed Bodiaf. Ce qui montre finalement que cet affranchissement du pouvoir civil de l'institution militaire, il requiert une exigence, celle d'abord d'un état d'institution. C'est un état régi par une constitution. Et le pouvoir algérien, bien sûr, parce que d'abord, il a une rente pétrolière qui est devenue très importante, mais aussi parce que dans un environnement régional aussi instable, depuis d'ailleurs l'indépendance, au nom aussi de la guerre froide et donc il a choisi plutôt une orientation socialiste, bah la question de la fondation d'un État national, la question de la même fondation des institutions qui permettent vraiment à l'État d'être un État fort et de contrôler, et le pouvoir civil de contrôler les systèmes de sécurité, les militaires et la police, malheureusement, n'a pas fonctionné. En revanche, je dis bien, il faut nuancer, aujourd'hui, nous assistons à un changement démographique dans cette institution militaire. On n'a presque plus ceux qui sont issus de la guerre de libération. L'âge moyen des militaires aujourd'hui, c'est entre 35 et 45. Nous avons des régions. Vous avez cité les services de renseignement. Les deux chefs, ils n'ont pas dépassé la soixantaine. Donc, le général Rajdi de sécurité intérieure et le général Youssef, c'est aussi. Donc, ils n'ont pas atteint l'âge de la retraite comme Gaït Salah. Mmh. Et ça, c'est un élément à suivre. C'est-à-dire que nous avons une armée qui est composée de jeunes nationalistes, certes, qui ont été formés en Algérie et qui n'ont pas le même dessein politique que les anciens, donc issus de la guerre de libération, alors, ou même ceux qui ont vécu le coup d'État successif.
Alors, ils ont peut-être, effectivement, ils ne sont plus dans ce logiciel de la décolonisation. En revanche, il y a quelque chose qui est toujours, bien sûr, dans l'esprit de cette génération-là, c'est la période de 90. On a beaucoup parlé de Toufik, l'ancien chef des renseignements. Toufik faisait partie des camps des janviéristes, c'est-à-dire ceux qui, en janvier 92, avaient décidé d'interrompre le processus électoral favorable aux islamistes du Front islamique du Salut, et il faisait donc partie de cette frange partisane de l'élimination par la force des terroristes et qui s'opposait au dialogue avec les islamistes. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les choses, il se trouve que c'est un argument qu'on a souvent entendu chez ces services de renseignement, c'est-à-dire l'idée que finalement, eh bien, il vaut mieux assumer le principe d'un service de renseignement tout puissant avec toutes ces dérives qui vont avec, plutôt que de risquer que le pays tombe dans le chaos sous la montée en puissance de l'islam politique. Est-ce que cet argument-là, Kader Abderrahim, on le retrouve encore au sein des services de renseignement, où finalement cette menace de l'islam politique n'est plus aussi effrayante et donc pourrait peut-être permettre de rompre avec cette idée qu'il vaut mieux avoir des services de renseignement tout puissants que le risque d'une arrivée dans le paysage politique de l'islam. Kader Abderrahim.
Non, je suis d'accord avec vous. Je crois que l'hypothèque islamiste, au sens politique du terme, n'est plus une menace pour le régime actuel. Et donc, nous sommes passés d'une forme de légitimité historique, hein, c'est-à-dire les aînés, ceux qui ont fait, qui ont participé à la guerre de libération, à une légitimité du sang, qui a considérablement accru son influence au sein de l'appareil d'État depuis les années 90, 99. L'un des aspects les plus évidents, c'est l'emprise et l'augmentation du nombre de policiers qui sont répartis aujourd'hui sur 80% du territoire. Et donc, on a aujourd'hui plus de 200 000 policiers, ce qui est considérable dans un pays qui doit être à 40 ou 42 millions d'habitants. Et cette justification vient aussi en confrontation à l'influence du fameux DRS. Et il y a eu la création d'un ministère de l'Intérieur sous Bouteflika et sous la férule de Yazid Zerhouni entre 99 et 2010, dont l'objectif était de créer un super ministère de la Sécurité intérieure qui contrôle les différents services de sécurité qui eux-mêmes ne rendent compte que par loyauté ou par dessein opportuniste et politique au président Bouteflika.
Kader Abderrahim, juste une toute dernière question, mais qui me paraît très importante, et puis on va parler de la Tunisie dans un instant, je vous demanderai une réponse courte. Mais est-ce que cette continuation de ce système et de ce poids extrêmement important du système sécuritaire algérien dans le paysage politique algérien, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu le fruit d'un soutien direct ou indirect de puissances étrangères? Vous aviez écrit cette année Géopolitique de l'Algérie. On sait combien les services de renseignement algériens sont efficaces, combien ils sont liés à d'autres services, et notamment bien sûr aux services français, mais aussi aux services américains. Il faut rappeler que avant les attentats du 11 septembre, Toufik prend un avion, va à Washington et prévient l'administration américaine de l'imminence d'un attentat de grande ampleur. Même chose après les attentats de 2015 en France, les services algériens préviennent les services français que la France fait l'objet d'un projet, d'une opération d'envergure sur le sol français. Est-ce que c'est pas aussi, au fond, certaines puissances étrangères qui ont participé de ce statu quo, finalement ?
Clairement, oui. Clairement, oui, nous nous sommes beaucoup illusionnés en imaginant que le statu quo était toujours préférable à l'aventure, fût-elle démocratique. Et on le voit aujourd'hui, on le constate. Et du reste, je voudrais souligner l'interview il y a quelques semaines du président de la République Emmanuel Macron à l'hebdomadaire Jeune Afrique, qui évoquait son soutien au président Tebboune pour l'accompagner dans la transition. Or, on aimerait que ce pays soit en transition, ce qui n'est pas le cas du tout. Et on voit la paralysie que provoque son absence. Donc la question, c'est que le régime algérien, qui est aujourd'hui face à une révolte interne, est face...
Eh bien voilà, un nouvel exemple, on en a presque tous les jours, d'une ligne qui casse en direct. C'est ça la radio en direct, c'est ça la radio aussi à distance. On a entendu en tout cas, Kader Abderrahim, votre position. On est avec vous, avec Hasni Abidi également, dans cette série consacrée à la police. On parle de l'Algérie, mais on va regarder du côté du voisin tunisien ce qu'il se passe s'agissant de l'appareil policier.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Après la transition démocratique et 10 ans après la révolution, il y a encore de la torture dans les prisons, dans les centres de détention. On se rappelle bien de plusieurs témoignages des victimes, même après la révolution.
Ces manifestants n'ont pas une grande idée et assez d'informations afin de comprendre la composition et l'utilité de cette loi. Ils manifestent suite à la première version de la loi de 2013, qui a été mise en discussion en 2015. Il y a tout un texte qui a été intégré pour défendre et protéger les droits fondamentaux de la liberté d'expression des citoyens.
Voilà, début octobre en Tunisie, des ONG, des citoyens étaient mobilisés contre l'exhumation d'un projet de loi controversé qui remonte à 2013 et qui vise à protéger la police et les forces de sécurité pour ces contestataires. C'est un texte qui représente une menace pour les libertés fondamentales. Alors depuis, le texte a une fois de plus été ajourné, mais il faut peut-être y voir le constant retour de cette question de la police sur le devant de la scène politique. Bonjour Audrey Plutin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en sciences politiques à Sciences Po Aix. Suite aux mobilisations, je le disais, le projet de loi sur les forces de sécurité a finalement été retiré. Mais est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire ce qu'il y avait dans ce projet de loi et surtout, votre interprétation du fait qu'il soit revenu comme ça encore une fois sur le devant de la scène?
Alors surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que ce projet de loi n'a pas été retiré. Hein. Il a simplement été... mis en attente, si je peux
dire. Oui, c'est
ça. Alors, ce projet de loi est en fait, en réalité, une demande des syndicats de police depuis leur création, depuis 2011. Et il est le fruit d'une concertation entre le cabinet du ministre de l'Intérieur en 2013, donc issu du parti Ennahda, et les syndicats de police. Donc, ce projet de loi a finalement... été déposé en avril 2015 à l'Assemblée des représentants du peuple. Et depuis 2015, il revient au gré de l'actualité, les syndicats de police faisant pression après chaque attaque visant l'un des leurs pour qu'il soit remis au goût du jour. Hein. Par exemple, en, en octobre 2017, alors qu'un policier avait été assassiné par un djihadiste devant l'Assemblée des représentants du peuple. Les syndicats de police ont fait pression, menaçant notamment d'arrêter de fournir une protection aux députés et au personnel politique si ce projet de loi n'était pas examiné de nouveau.
Ouais. Je rappelle que vous êtes particulièrement intéressé à cette question des syndicats. Vous avez mené un certain nombre d'entretiens avec des représentants syndicaux et je rappelle également que justement ces syndicats, ils ont été créés après le départ de Ben Ali. Si l'on regarde un peu ce qui a été fait s'agissant des réformes de l'appareil policier sécuritaire tunisien, vous aviez écrit un article très intéressant dans la revue Liens social et politique intitulé « Pas de révolution pour la police, point d'interrogation ». Derrière le point d'interrogation, il y a évidemment des choses à dire parce que notamment il y a eu un certain nombre de tentative de réforme. Et l'une des réformes qui a été engagée, c'est celle qui consistait à créer une police de proximité pour essayer de répondre à cette crise de confiance entre les citoyens et l'appareil sécuritaire. C'est d'ailleurs une dynamique qui a été portée, vous l'expliquez, financièrement par les Nations Unies, par la communauté internationale. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine et avec quels résultats ?
Alors, pour ce qui est de la police de proximité, donc une dizaine de localités en Tunisie ont constitué ce que le programme des Nations Unies pour le développement appelle des projets pilotes. Il s'agissait pour eux donc d'associer les citoyens, donc en l'occurrence des associations locales, à la gestion de la sécurité publique. Or, finalement, ce qu'on observe est l'idée de police de proximité est évidemment un programme d'ambition plutôt globale. La police de proximité, on a eu aussi des essais en France, par exemple. Mais en Tunisie, ce qu'on observe, c'est que cette police de proximité vient surtout servir finalement des ambitions de communication de la part du ministère de l'Intérieur.
Vous écrivez « Lustrer l'image du ministère et de ses agents semble l'emporter sur l'idée de collaborer avec la population locale dans la lutte contre la criminalité ». Mais on a du mal à comprendre, Audrey Plutat, justement cela, parce que on se dit que pour le nouveau pouvoir tunisien, il était absolument essentiel justement de remettre un peu à plat les choses, de redorer un tout petit peu le blason de l'appareil sécuritaire, de l'appareil policier, dont on sait la place qu'il avait dans le paysage politique à l'époque de Ben Ali. Comment se fait-il qu'on n'a pas vraiment voulu engager ces réformes ?
Alors, il y a eu des ambitions de réformes, et notamment en 2011. En 2011, donc, une myriade d'associations, à la fois internationales mais aussi tunisiennes, militent pour une réforme structurelle du ministère de l'Intérieur et de l'appareil de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réforme structurelle ? Une forme de redevabilité des forces de sécurité, une forme aussi de réforme législative encadrant le statut des forces de sécurité. Or, force est de constater que donc 10 ans après la révolution, cette réforme n'a pas eu lieu. Donc pourquoi elle n'a pas eu lieu ? Déjà, cette réforme a été mise au banc, si je puis dire, par les différents gouvernants, tant finalement l'enjeu finalement pour eux, et ce dès 2012, dès l'apparition en Tunisie d'attaques et de djihadistes, a finalement changé l'impératif politique pour les dirigeants. Et très vite, finalement, c'est cet impératif du maintien de l'ordre public qui va l'emporter. Il faut aussi rappeler qu'en Tunisie, 800 commissariats ont été brûlés au moment de la révolution de 2011, et que finalement, cette question, donc de pour revenir sur la question de la protection des agents, a été cruciale tant pour les agents du ministère de l'Intérieur que pour ces syndicats.
J'entends ce que vous dites, Audrey Plutat, mais il y a quand même une question qui se pose, c'est que j'entends le nouveau contexte et la question de la menace islamiste qui, bien sûr, explique en partie cette difficulté à réformer l'appareil sécuritaire. Est-ce que ça veut dire que quand on fait le compte, là, quasiment 10 ans après, on est dans une situation où la Tunisie est à peu près la même et au fond, c'est toujours un état policier, c'est ce qu'on disait à l'époque de Ben Ali, où c'est largement abusif et aujourd'hui, on ne peut plus dire précisément que la Tunisie est un état policier.
Alors, moi, je me méfie un petit peu du terme « état policier » et je tente davantage de me pencher sur les formes que prennent finalement ce contrôle de l'appareil, enfin par l'appareil policier. Sous Ben Ali, d'ailleurs, on parlait donc d'appareil policier. Les associations de défense des droits de l'homme sous Ben Ali parlaient de 100 000 agents de police. Or, en 2011, on se rend compte que finalement, il n'en était que, entre guillemets, que 50 000. Mmh. Pourtant, la force, entre guillemets, de l'appareil policier sous Ben Ali, c'était justement de faire croire à cet appareil policier pléthorique. Et donc déjà, cette croyance en un nombre beaucoup plus important d'agents, d'une part, et d'autre part, il reposait sur un maillage territorial qui reposait sur le parti unique à l'époque. Mmh. Et donc un système finalement d'indicateurs pour le compte des forces de l'ordre. Ce qui se passe après 2011, c'est que le nombre en fait d'agents augmente considérablement. Aujourd'hui, on est environ à 90 000 agents en Tunisie, hein, ce qui est nettement supérieur.
Ah oui, donc en termes d'effectifs, en fait, ça a progressé en réalité depuis Ben Ali.
Bien sûr.
Ouais. Mais alors, Audrey Putas, ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement les policiers, et puis il y a tout un réseau, au fond, tout un maillage qui participe de ce contrôle de cet appareil sécuritaire. Mais en fait, ce maillage, il est quasiment total. C'est-à-dire que sous Ben Ali, en tout cas, il y avait un système de terreur qui faisait qu'en réalité, tous les citoyens participaient plus ou moins activement à cette mécanique du contrôle, et notamment à travers la délation de son propre voisin, ce qu'on appelle en arabe le kaweda. Est-ce que ce phénomène de délation a reculé depuis Ben Ali? Parce que vous disiez la réforme de l'appareil sécuritaire, évidemment c'est difficile, et notamment pour des raisons sécuritaires et politiques. Mais là, c'est la culture au fond du contrôle qui est en question. Est-ce que ce phénomène-là, il a reculé?
Non, alors vous avez tout à fait raison de parler de la figure du Qawed en Tunisie, hein, qui est bien connue. Alors non, et alors il existe toujours, bien sûr, la police travaille toujours avec des indicateurs. Néanmoins, ce système d'indicateurs prend d'autres formes. Il ne repose plus donc sur le parti unique, mais va davantage reposer sur des formes de collaboration ou même de collaboration financière avec les forces de sécurité. Mmh. Ou alors ça va reposer sur un système aussi d'octroi de licences de licences pour des petits commerces, etc. Un système un peu de don contre don avec les forces de sécurité. Et qui va leur permettre d'obtenir des renseignements. Et on n'est plus précisément dans une perspective de délation pour opposition au régime. C'est là aussi où le système évolue.
Merci beaucoup, en tout cas, Audrey Plutat, d'avoir été avec nous ce matin. Pour aller plus loin, je rappelle pour les auditeurs que vous avez notamment écrit cet article « Pas de révolution pour la police ». Et un grand merci également à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin. Je rappelle Hasni Abidi, vous êtes l'auteur notamment de Moyen-Orient, Le temps des incertitudes. Un grand merci également à vous Kader Abderrahim, auteur vous entre autres de Géopolitique de l'Algérie. Un grand merci à tous les deux. Dans quelques instants, on retrouvera Olivia Gesbert et La Grande Table. Mais d'abord, 11h52, c'est Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice, vous êtes toujours dans les conseils pour Noël. Troisième livre allemand que vous nous présentez cette semaine, le roman de Till l'Espiègle de Daniel Kehlmann.
Oui, avec Kehlmann, on a affaire à l'un des plus grands auteurs européens de notre époque. C'est une sorte d'Umberto Eco. Comme le savant italien, Kehlmann est doté d'une immense culture historique et philosophique, mais c'est en même temps un conteur prodigieux à l'imagination baroque, d'où sa popularité méritée. Ses romans ont en effet été traduits en plus de 40 langues, ils se vendent à plusieurs millions d'exemplaires et ont été souvent adaptés au cinéma. Le dernier, donc, Till Eulenspiegel, va donner naissance à une série sur Netflix, il faut vivre avec son temps. C'est d'autant plus étonnant que, comme dans le cas d'Umberto Eco, on a affaire ici à une littérature extraordinairement savante, bourrée d'allusions culturelles et de réflexions philosophiques de haute volée. Mais, toujours comme chez Eco, ces livres offrent plusieurs niveaux de lecture. Il n'est donc pas indispensable de saisir toutes les intentions de l'auteur pour goûter ses inventions, son humour sarcastique, son style éblouissant, ni même d'aller chercher sur Google qui sont au juste les personnages historiques qu'on y croise. Mais lorsqu'on le fait, on s'aperçoit que tout est juste et à sa place dans ces constructions narratives parfaitement maîtrisées. Les Allemands ont souvent brillé dans le roman historique, mais le sens du détail véridique et la connaissance des enjeux politiques d'une époque ne suffit pas. Kehlmann, lui, y ajoute une maîtrise inhabituelle de l'histoire intellectuelle. Comme Goethe ou Thomas Mann, il met en scène des personnages qui sont aussi l'incarnation d'idées générales. Avec Till Eugenspiegel, auquel notre langue française doit d'ailleurs l'adjectif espiègle, traduit astucieusement par Juliette Aubert par Till Eulespiegel, nous sommes plongés au cœur d'un événement historique des plus traumatisants de toute l'histoire allemande, la guerre de 30 ans. Le Danemark, la Suède, la France et d'autres puissances européennes vinrent y ravager les Allemagnes au XVIIe siècle en s'y livrant à une guerre absurde et interminable. Les locaux qui échappent aux tortionnaires de l'Inquisition, aux bandes de mercenaires ravageant les villages, finissent par mourir de la peste ou dévorés par les loups. Les forêts sont pleines de pendus, on tombe au hasard sur des batailles effroyables, on chevauche au milieu d'agonisants dans la puanteur atroce. Beaucoup croient que la fin du monde est proche, la sorcellerie est beaucoup pratiquée. Et dans ce cadre lugubre à souhait, Kehlmann raconte ses histoires sur un mode sarcastique et désenchanté. Toutes tournent autour de ce personnage venu du Moyen-Âge flamand, d'ailleurs, Till l'Espiègle. Kehlmann en fait le commentateur audacieusement ironique de la sottise et de la cruauté des acteurs, grands et petits, de la catastrophe en cours. Danseur de cordes, il incarne la légèreté sceptique de celui qui ne se laisse pas prendre dans les mailles des discoureurs. Citation. Si sa minuscule majesté, sa majesté stupide à la couronne dorée sur son trône doré a entendu parler de moi, c'est parce que je vous ai fait venir. Et ne me frappe pas, j'ai le droit de le dire. Tu connais la liberté des fous. Si je ne traite pas sa majesté d'imbécile, qui le fera ? Prêt à payer le prix de son indépendance, on le suit dans ses errances, tour à tour comédien itinérant, bouffon professionnel, se débrouillant toujours pour rebondir et survivre dans ce monde livré au chaos. Il a le don d'apparaître, de disparaître tout soudain, comme le diablotin qui sort de sa boîte. D'ailleurs, il est souvent absent du roman lui-même, ne réapparaissant que selon les nécessités narratives de l'auteur. Porteur d'un esprit anarchiste et rebelle, il provoque des perturbations dans les communautés villageoises qui le reçoivent, mais sa liberté fait des adeptes. La formule du roman picaresque, un genre en vogue justement au XVIIe siècle, se prête fort bien à l'évocation des aventures de ce facétieux saltimbanque. Elle permet à l'auteur de multiplier les personnages et les points de vue.
Et alors Brice, peut-être quelques citations à titre d'échantillon des intentions et du style de ce livre, dont je rappelle le titre, hein, le roman de Till Eulespiègle de Daniel Kehlmann, qui est traduit par Juliette Aubert et publié chez Actes Sud.
Oui, la première. C'était un héros fébrile, si ému par sa propre personne qu'il en avait les larmes aux yeux. Et encore, tous les spécialistes eurent pour consigne d'imaginer des supplices plus subtils et plus effroyables que ceux rêvés par les plus grands peintres de l'enfer, la seule condition étant que l'âme ne s'éteigne pas et qu'on ne devienne pas fou. Il fallait en effet que les coupables dénoncent leurs complices et qu'ils aient le temps de demander pardon à Dieu et de se repentir car papa était un bon chrétien. Et enfin, « C'est qui celui-là ? » répéta le bouffon. « Tu me plais, dit le roi Gustave Adolphe. Pas toi, dit le bouffon. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique et pour ces conseils pour Noël. Évidemment, tous ces conseils, on peut les retrouver sur la page du Tour du Monde des Idées, cher Brice. On vous retrouve lundi, Brice. Ça sera demain pour ce qui est de votre chronique en numérique seulement. Et pour ce qui est de la radio, ça sera donc lundi.
L'esprit d'ouverture.